à suivre depuis votre canapé ou peut-être votre siège de voiture ce soir.
Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, l'émission sportive de Radio Présence. Comme tous les lundis, vous le savez maintenant, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région, tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera les résultats du week-end. Maxime Brossard, l'agenda de la semaine, sans oublier les débats avec ce soir l'AS Saint-Etienne et le niveau français dans le cyclisme. Enfin, nous recevrons Eddy Martin, l'entraîneur des Belugas, l'équipe de hockey sur glace de Toulouse-Blagnac. Avec nous aujourd'hui, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Marek Keta, bonsoir Marek.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Et enfin, on n'est que trois ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Messieurs, bonsoir, comment vous allez en ce lundi 1er octobre?
Ouais, bof bof Jean.
Bof bof, pour...
La disparition de Charles Aznavour, oui.
On l'a appris, oui, à 94 ans. C'est vrai que c'est encore une... Après Johnny Hallyday, en décembre dernier, ça fait encore une grande star de la chanson.
France Gall.
Exactement, c'est vrai qu'il y avait France Gall. C'est une grande star, un monument de la chanson française qui vient de partir.
Un de plus.
Et ouais, ça fait bizarre, on l'entendra plus. Bon, après 94 ans, c'est quand même un bel âge.
Il avait encore des concerts de prévu. Ouais. Hein, donc,
Oui, une dernière tournée, je crois, c'était.
Exactement. Il était à la télé il y a 3 jours, donc visiblement, il n'allait pas si mal à ce moment-là. Mais,
voilà. Lucas, vous l'aimez bien?
J'aimais bien ses chansons.
Est-ce que vous l'aimez bien?
J'aimais bien ses chansons.
L'homme moins, mais les chansons, il y a.
L'homme un peu moins, mais j'ai mes raisons, voilà. Vous inquiétez pas pour ça.
Chansons, il n'y a rien à dire.
Hein. Les chansons, il n'y a absolument rien à dire. Je les connais toutes par cœur.
On verra ça tout à l'heure. Il y a une chanson de Charles Aznavour. On enregistrera, promis. La chanson de Lucas Serdic. J'espère que votre bonne humeur, malgré tout, va se poursuivre avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur. Et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlerez d'un événement qui vous a fait plaisir ou non. Et cette semaine, c'est pas super, super bien. Alors, on commence positivement avec vous, Maxime Brossard. Un coup de cœur sur la reprise de la NHL.
Et oui, j'en profite, puisqu'aujourd'hui, en plus, on a Eddy Martin, le coach des Belugas. On va parler un peu hockey aujourd'hui. Moi, mon coup de cœur, c'est la reprise de la NHL qui reprend mercredi, donc. La NHL qu'on va suivre avec attention, déjà parce que l'année dernière on a eu un champion un peu inédit qui sont les Washington Capitals avec la victoire, notamment le sacre d'Alexandre Ovechkin. C'est important un peu ce sacre parce que c'est un peu pour comparer comme si Messi n'avait jamais gagné le championnat et qu'il gagnait le championnat pour la première fois l'année passée quoi. Donc voilà, en plus au-delà de ça on a vu naître une nouvelle franchise, les Las Vegas Golden Knights, qui a été un peu la belle surprise de cette saison, avec notamment le français Pierre-Édouard Bellemare.
Les franchises, pour les auditeurs, ce sont les équipes, tout simplement.
Les clubs,
ils appellent ça les clubs. Ce sont les franchises aux États-Unis, au Canada.
Oui. Et justement, pour revenir sur le parcours un peu surprise de ces Las Vegas Golden Knights, et notamment du français Pierre-Édouard Bellemare, qui ont bien failli aller jusqu'au bout. On va voir s'ils vont confirmer cette année. On a aussi une petite pensée pour Antoine Roussel, qui est un autre Français qui joue en NHL, qui part sur un nouveau défi.
À Dallas, non, c'est pas ça?
Il part de Dallas, après 6 ans passé à Dallas, et là il va à Vancouver.
Voilà, c'était un peu le cogneur de l'équipe, c'est ça?
En fait, il a commencé, on dit que c'était un goon. Il était là un peu pour mettre les points sur les i. Et puis il a fait évoluer son jeu quand même. Il est passé maintenant. C'est un joueur maintenant qui était plus utilisé, on va dire, sur la première ou la deuxième ligne. Donc c'était un joueur qui était amené un peu plus à toucher du palais. Et je vais parler donc de mercredi. On en profite, étant donné qu'il y a Eddy avec nous, il y aura un beau match à suivre. Il y aura Toronto-Montréal en ouverture, un match électrique
d'entrée. Ouais. Ça impose tout de suite le début de championnat.
Le Québec contre l'Ontario, là, ça risque d'y avoir des étincelles. Donc on va voir. Et puis surtout les Canadiens de Montréal qui sont un peu une équipe en reconstruction. Ils vont être intéressants à suivre. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. On parle aussi notamment en parlant de Las Vegas. Ils ont cédé leur capitaine Max Pacioretty à Las Vegas et on va voir. On va voir comment ces Canadiens vont se comporter. En tout cas, moi, je vais les suivre et j'espère que vous aussi.
On va essayer. Pourquoi pas, ouais, de s'intéresser.
Mais, on va profiter, c'était le seul coup de cœur oui. de la soirée. Là, on va enchaîner sur deux coups de gueule, messieurs. Vous n'êtes pas en forme, ou vous êtes en colère plutôt, on va le dire comme ça. On commence avec vous, Lucas Cerdic. C'est tout simplement sur la formule, hein, expliquez-nous.
Oui, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé ce week-end, c'est un exemple de plus pour moi de problèmes récurrents en Formule 1. Si vous n'avez pas suivi, Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Russie suite à une consigne d'équipe. Il a tout simplement bénéficié du fait que Valtteri Bottas, son coéquipier de chez Mercedes, l'a laissé passer suite à une consigne d'équipe à peu près à la moitié de la course, alors que le Finlandais dominait assez facilement la course, avait été devant au niveau des qualifications aussi. Et bon, bah, c'est quelque chose, quand on est sportif, qu'on peut pas, quand on aime le sport en tout cas,
qu'on peut pas apprécier.
D'ailleurs, Lewis Hamilton lui-même a dit que c'était la victoire là, dont il était le moins fier de toute sa carrière. Il en compte 70, donc c'est pas un novice en la matière.
C'est presque de l'anti-jeu. Enfin, c'est quand même incroyable à ce niveau-là.
C'est vraiment limite. Et en plus de ça, il a été un peu maladroit, même si ça partait d'une bonne intention. Sur le podium, il a proposé d'échanger les trophées avec son coéquipier. Enfin, on marche sur la tête un petit peu. En plus de ça, c'était une saison qui était quand même plutôt sympa, avec une belle bataille avec Sébastien Vettel. Ça lui donne 50 points d'avance à 5 épreuves de la fin. Ça tue un peu
c'est
le
clos.
Suspense. Bah, c'est pas clos, mais.
Quasiment.
Voilà, c'est quand même un gros coup dur pour Sébastien Vettel, qui lui termine 3e. Voilà, ça participe à un truc que j'aime pas dans la Formule 1. Là, Esteban Ocon, notre Français, qui est quand même bon, qui a de bons résultats et qui devrait se retrouver
sans écurie, sans équipe.
En tout cas, il a de bonnes chances l'année prochaine, tout simplement parce que un monsieur qui s'appelle Monsieur Stroll a racheté l'écurie Force India dans laquelle il court. Il a son fils qui est en Formule 1, il va le faire venir. Donc, papa ramène fiston, et en plus de ça, il garde l'autre coureur de chez Force India actuellement, qui s'appelle Sergio Pérez, qui est un Mexicain, qui bénéficie de nombreux sponsors. Et en Formule 1, le sponsor, c'est de l'argent, et l'argent, c'est important. Donc ils vont le garder, et celui qui va faire sans doute les frais de tout ça, c'est notre Français, Esteban Ocon, qui était très prometteur. C'est triste, voilà, c'est un peu dommage pour un sport qui est quand même, j'ai envie de dire, la vitrine de l'automobile. Et voilà, c'est mon coup de gueule.
Le prochain, on va voir si les coureurs vont pouvoir se rattraper le week-end prochain pour le Grand Prix du Japon. Ce sera dimanche 7 octobre. Et on termine avec un coup de gueule, encore une fois.
Et un coup de cœur à la fin, quand même.
Et un petit coup de cœur, quand même, on va terminer. C'est pour vous, Marek Keita, et c'est un coup de gueule ce soir sur l'arbitrage. Il est vrai, étrange, on va l'avouer quand même. De Rennes-Toulouse, c'était hier après-midi à 15h, match nul, un partout entre Rennes et Toulouse.
Eh oui, un problème récurrent en France, hein, dans le foot, l'arbitrage qui pourtant, avec l'instauration de la VAR, la vidéo devait être réglée, mais en fait, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement avec la VAR. Du coup, pendant le match Rennes-TFC, pas de vidéo. Et il s'est passé deux choses qui font...
Qui changent le match, clairement. Le carton rouge et...
Voilà, jusqu'à la 43e, il n'y a pas grand-chose à signaler. Oui, voilà. Mais le fait de jeu donc, de cette première période, c'est un ballon en profondeur sur Iron Leia
Iseka.
Iseka, le numéro 10 toulousain, qui a la lutte sur ce ballon avec Da Silva. Le défenseur tombe. Et notre cher numéro 10,
attaquant
prend un carton jaune injustifié.
S'énerve et prend
rouge. Il s'énerve, il prend un rouge. On joue à 10 jusqu'à la fin du match. Donc déjà, première erreur d'arbitrage. Mais le plus scandaleux déjà, c'est que c'est un attaquant qui part seul au but finalement et qui se prend un jaune, alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça s'arrête pas là pour le TFC, qui est réduit à 10, donc
qui tient face à des Rennais moyens encore une fois hier.
Je veux dire, Ben Arfa très décevant d'ailleurs, et en tout cas nouvelle erreur de l'arbitre, qui a même pas hésité à siffler penalty dans la surface de réparation avec un tacle par derrière, certes, mais qui touche le ballon en fait.
Messieurs, le tacle est maîtrisé.
Absolument, il touche d'abord le ballon, puis ensuite il déséquilibre l'attaquant.
Et... Ah, je suis désolé, je fais partie
Lucas
de, je
fais partie pas
de ceux qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs d'arbitrage dans ce match, parce que si on regarde bien les images, Leia Iseka, il prend un carton jaune parce qu'il s'énerve. Derrière, il va à peu près à 2 cm du visage de l'arbitre. On ne sait pas ce qu'il lui dit, mais à un moment donné, si je lis bien sur les lèvres, pour moi, il y a une insulte. Il prend un rouge dans la foulée, il n'a pas à s'énerver. Après, bon, voilà, pour le sauver, effectivement, il avait sifflé faute contre lui alors qu'il n'y avait clairement pas faute. Voilà. Je comprends, mais bon, il ne faut pas s'énerver, on le sait. Et pour moi, le tacle de Todibo, si certes il touche le ballon, s'il casse la cheville de Niang, c'est pareil aussi. Donc bon, après, voilà, c'est un sujet d'interprétation, et pour moi, c'est pas si scandaleux que ça.
Mais et le penalty, il met clairement le pied sur le ballon.
On rappelle pas assez souvent, mais un tacle, c'est un geste technique. Et là, pour moi, c'est maîtrisé.
Ce qu'on dit en général sur ce genre de tacle, c'est qu'en Angleterre, ça applaudit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, je me mets à la place de l'attaquant qui voit sa cheville se faire découper, et si elle est pétée, c'est pareil pour moi. Mais bon, voilà, c'est interprétation de
Marqueta.
En tout cas, coup de chapeau néanmoins pour les Toulousains, parce qu'ils ont réussi à égaliser à la fin du match. Grosse fosse de caractère. On est content de ce début de saison.
Notamment de Todibo qui se rachète et qui fait preuve. En plus, il avait eu un carton rouge aussi. Je crois que c'était la troisième journée de championnat. Bon, bref,
à Guingamp, je crois.
Il est prometteur, ce petit Todibo.
Petit coup de chapeau aussi à Baptiste René au passage.
Meilleur recrue pour l'instant.
Merci messieurs. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec Didier Rubio pour les conseils santé. À tout de suite.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La...
Et c'était Charles Aznavour sur Radio Présence.
Portez-vous bien, Jean Sureda.
La chronique santé avec Didier Rubio. Et cette semaine, pour la chronique santé, nous allons parler des glucides dans le sport. Grosso modo, c'est le sucre, Didier Rubio.
Oui, exactement. C'est un terme qui désigne les glucides, c'est le terme scientifique pour dire sucre. Mais ce qu'on pourrait retenir et qui est important, c'est la différence entre vraiment les sucres dits simples, c'est-à-dire les produits sucrés, hein, les boissons sucrées, les biscuits, les bonbons, les produits laitiers qui sont sucrés, enfin partout où il y a du sucre. Il faut vraiment, vraiment le différencier des glucides qui sont dits complexe.
C'est le bon sucre, les glucides ?
Exact. Alors, les glucides complexes. Et là, c'est effectivement les bons glucides vont être plutôt les légumes, plutôt les fruits, tous les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les légumes secs. C'est très, très, très intéressant. À la différence des sucres rapides, hein, simples, qui vont ou occasionner en fait des variations de glycémie, c'est-à-dire le sucre qu'on a dans le sang, de manière trop brutale. Et donc ça, c'est peu intéressant, et même dans le sport. Ça peut être intéressant que pendant le sport, d'utiliser des glucides simples. Mais là, on n'a pas le temps de développer, mais on pourrait le faire. Il y a quand même de plus en plus de pathologies, de civilisations, hein, dites de civilisations, qui montrent quand même que le sucre est trop prégnant dans notre société. À titre d'exemple, hein, Jean, un enfant qui a 6 ans actuellement, il aura mangé déjà... Hein, plus de sucre que son grand-père ou arrière-grand-père de toute sa vie.
Mais finalement, alors, est-ce qu'il faut du sucre pour faire du sport ?
Et alors, effectivement, il faut des glucides, ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut du sucre, comme on l'entend, sucre.
Il ne faut pas manger des bonbons avant de faire du sport.
On peut faire du sport en mangeant zéro sucre, c'est-à-dire zéro sucre, très rapide, sans consommer de produits sucrés comme les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits. Même les jus de fruits, c'est sucré, hein, même si c'est du jus de pomme ou jus de raisin ou autre. Hein. Donc, il faut être prudent et j'encourage vraiment la population, enfin les gens qui écoutent, à essayer de privilégier tous les glucides qu'on va appeler complexes, je répète, les fruits, les légumes, les féculents, et de laisser de côté un peu tout ce qui est en saveur très sucrée. Alors, c'est associé au plaisir, hein, on sait bien, c'est rattaché à l'enfance. Mais bon, il faut travailler sur le plan éducatif pour ne pas habituer les enfants à trop avoir besoin de ça.
Pour le corps, que ce soit avant une séance, après une séance ou pendant une séance, le fait d'avoir trop de sucre, quels sont les risques dans le corps, pour le corps ?
Avoir trop de sucre, par exemple, avant une séance de sport, ça peut être gênant parce que si la séance de sport, vous ne la faites pas. Par exemple, vous tombez en panne en voiture et puis du coup, vous n'allez pas à la salle ou vous n'allez pas au terrain. Donc, vous avez pris du sucre en plus pour rien. Donc, ça ne sert à rien de surconsommer des sucres, sauf dans le milieu professionnel où là,
ils sont obligés.
Mais sinon, non, il n'y a pas à augmenter les apports en sucre globalement pour faire du sport. Il faut les adapter. C'était comme on avait fait une rubrique sur les protéines. C'était la même chose. Voilà.
Didier Rubio, merci.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence. On se retrouve la semaine prochaine pour la chronique santé et tout de suite, les résultats sportifs du week-end.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
Et comme toujours, depuis le mois de septembre, voire depuis le mois d'août, c'est un week-end très chargé. Et encore une fois, c'est un week-end mitigé pour les clubs de Toulouse avec un match nul, le football, et deux défaites, le rugby et le handball. On fait le point avec vous, Lucas Serdic, cette semaine. Et on commence donc avec le rugby. Castres s'impose dans le derby face à Toulouse.
Ouais, Castres a remis ça encore une fois. Ils se sont imposés au stade Ernest Vallon 26 à 22 face à Toulouse, alors qu'il y avait 22 à 3 après 50 minutes de jeu pour le stade toulousain. Écroulement total. Toulouse enchaîne deux défaites de suite, alors que Castres continue d'alterner victoires et défaites. Les champions de France en titre doublent même Toulouse. Ils sont quatrième, alors que le stade toulousain, qui avait fait un bon début de saison, et 8e. Dans les autres rencontres, Pau s'est imposé à Agen 28 à 25. C'est un gros coup dur pour les Agenais, alors que c'est une très belle opération pour les Palois, qui sont Agen, c'est le futur adversaire de Toulouse d'ailleurs samedi soir. Clermont, lui, a confirmé de son
face
côté.
Face à de faibles Toulonnais.
Ouais, face à Toulon, 28 à 8. Le RCT qui est vraiment inconstant. Clermont devient leader du coup, alors que dans le derby francilien, c'est le Racing 92 qui s'est imposé face au nouvel ogre, le Stade français 17-16, sur la pelouse du Stade français en plus, alors que Perpignan a perdu face à Montpellier et les derniers du top 14.
Ferme toujours la marche. En football, le TFC revient de loin, on en a parlé un peu tout à l'heure.
On en a parlé tout à l'heure, nul 1 partout à Rennes, à 10 contre 11 pendant presque une mi-temps. C'est Todibo qui a égalisé à la toute fin de match à la 88e minute sur un pénalty, donc on l'a dit, discutable en tout cas, qui suscite le débat. Le TFC qui va affronter Nice vendredi soir. Nice qui a perdu face au PSG 3-0, grosse défaite des joueurs de niçois, alors que le PSG, bah, lui, survole. Hein, 8 victoires en 8 matchs, c'est un record. 8 points d'avance d'ailleurs sur Lille, qui a gagné contre Marseille dimanche soir. C'était un gros match des Lillois, 3-0 aussi, tandis que Montpellier a gagné dans le derby, n'est-ce pas, de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. 3-0 face à Nîmes, avec tout de même des incidents en tribune, j'en suis
ravi. Exactement, et Guingamp qui a obtenu sa première victoire à Angers, mais reste toujours dernier derrière Monaco et Nantes. En handball, le Phénix n'avance toujours pas, Lucas Cerdic.
Non, 2 défaites et 1 nul, et le Phénix qui affrontait Tremblay mercredi pour se rassurer, c'est loupé, défaite 36-31, Toulouse est 12e sur 14 avec un seul point, c'est vraiment faible pour les hommes de Philippe Gardon. Les Toulousains, ils vont viser une première victoire face à Aix-en-Provence, qui a perdu 26-25 contre Chambéry la semaine dernière. Au classement, Nantes est leader après sa victoire face à Montpellier, qui est un peu vraiment à la peine en début de saison, aussi 3 défaites en Ligue des Champions. 31-28 pour Nantes face à Montpellier, tandis que Chambéry et le PSG sont juste derrière.
Juste devant aussi Nîmes et Montpellier, justement, en handball, en basket, la proie et ouais, exactement, Pau est grandiose, a été grandiose à Strasbourg contre la SIG.
Ouais, c'était contre l'un des favoris du championnat, Pau qui s'est imposé 70-65 sur le parquet des Alsaciens. Les Palois sont malgré tout que 13e dans un championnat dominé par Dijon, Lyon et Chalon-sur-Saône, avec un 100% de victoire pour ces trois équipes en 2 journées.
Et en golf, la Ryder Cup, et pour l'Europe, c'était en France.
Ouais, dans la compétition sportive la plus suivie après la Coupe du Monde de football et les JO. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais la Ryder Cup, c'est vraiment un gros événement tous les 2 ans. C'était organisé pour la première fois en France et ça a été remporté donc par l'Europe, 17,5 à 10,5. Ouais. On sait pas exactement ce que sont les demi-points en golf, on est tous d'accord. Mais bon, voilà, l'Europe a gagné et reste sur une grosse série face aux États-Unis. Voilà, c'est un titre qu'elle retrouve vu qu'il y a 2 ans, ils avaient perdu. Et un tout petit mot pour conclure, on l'a dit tout à l'heure, mais en Formule 1, Lewis Hamilton s'est à nouveau imposé, doublé pour Mercedes devant Valtteri Bottas qui l'a laissé passer. Lewis Hamilton est large leader du championnat du monde de F1 après cette victoire au Grand Prix de Russie. 50 points d'avance sur Sébastien Vettel à 5 épreuves de la fin.
Et il va être encore une nouvelle fois champion du monde de Formule 1.
C'est bien parti.
Merci Lucas Cerdic, on se retrouve là tout de suite pour le premier débat de la soirée.
Portez-vous bien. Le débat.
Et on va parler football pour ce premier débat. 16e en janvier dernier, les Verts ont su se ressaisir pour occuper la 4e place de Ligue 1, un point du 2e Lille et futur adversaire justement de l'AS Saint-Etienne. Messieurs, tout simplement et comme d'habitude, on répond par oui ou par non. Est-ce que l'AS Saint-Etienne peut viser la Ligue des Champions carrément, Maxime Brossard?
Alors là, vous me posez une colle, Jean, mais bon, je vais dire oui.
Oui. Lucas Cerdic.
Non.
Et Marek Keita.
Non.
Non, c'est trop juste par rapport à des Marseille, Lyon.
Pas encore. Peut-être la SSE est en plein un nouveau projet politique pour l'instant fonctionne, mais je les vois pas encore immédiatement occuper le podium. Cette année en tout cas.
C'est trop juste. Une seule défaite, messieurs, cette saison. Ouais. On va les pardonner. C'était au Parc des Princes 4-0, certes, mais face au Paris Saint-Germain.
Il faut toujours se méfier des débuts de saison en foot, en Ligue 1, on le sait. Surtout des débuts de saison qui suivent les grandes compétitions internationales. Des équipes comme Lyon, Marseille, même Monaco, même si ce sera très très difficile pour eux d'accrocher le podium cette saison, sont quand même des équipes qui ont un plus gros vécu et un effectif de meilleure qualité que Saint-Etienne, même si, on l'a déjà dit et répété, l'hiver dernier, ils ont fait un recrutement absolument fantastique et ils ont continué cet été avec Wabi Kazri, notamment très 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 bonne pioche.
Il a mis un doublé,
il est magnifique, il joue en avant-centre, enfin un début d'avant-centre, et d'ailleurs c'est pour moi le numéro 2 derrière Diony, il peut jouer partout. Kazri, c'est vraiment...
Et Diony revit cette année avec l'AS Saint-Etienne.
Diony, oui. Bon, il a encore un peu de marge avant de retrouver son niveau
de Dijon.
Mais il est effectivement, c'est un atout pour Saint-Etienne cette année. On a Berich sur le banc qui est toujours capable de faire quelque chose. Non, c'est une grosse équipe avec une PRM Villa, Celnaes, très intéressante au milieu aussi. De là à ce qu'ils fassent podium, moi je pense encore que voilà, on y sera pas. Mais...
Mariketa.
Ouais, donc leur ambition sportive, c'est d'aller dans le top 5, ça on le sait. Mais après, le club en lui-même est encore en train de se reconstruire, puisque en mai, il y avait toute une histoire sur le rachat du club par des Américains. Le projet est tombé à l'eau. Maintenant,
c'est
il y a
ressorti
des,
un petit peu.
C'est ressorti, ouais, il y a des pistes. Ce serait les Émirats, justement, qui seraient intéressés pour le rachat du club. Et là, éventuellement, on pourrait parler d'un podium. Mais pour l'instant, moi, je ne les vois pas encore.
On parle d'un mercato quand même depuis janvier, où ils ont été 16e en janvier. Ça n'allait pas du tout. Il y a eu un mercato, M. Villa, Debuchy. Ouais. Cette année, ils recrutent Casri, ils recrutent Cabella. Ils prennent officiellement Cabella. Salibur, Diony, ils reprennent Diony. Le mercato a été excellent. Est-ce que finalement, c'est pas logique de voir Saint-Etienne au moins en haut du classement, quatrième sur un début de saison très correct.
Oui, je pense que c'est une équipe qui est maligne, qui fait un recrutement intelligent. Après, moi j'ai dit oui au début, bien sûr, parce que j'ai dit oui pour l'histoire, parce que c'est quand même un grand club. J'ai envie de connaître ce que mon grand-père m'a toujours raconté, la fameuse finale de 76, les poteaux carrés à Glasgow. Donc voilà, et puis la ferveur qu'il y a derrière cette équipe, on sait que voilà, si ça va en Ligue des Champions, je pense que ça donnera des matchs à l'ambiance vraiment incroyable. Et je pense que ça ferait du bien à la Ligue 1 de voir vraiment des vrais supporters.
Fantastique. On parlait du mercato là à l'instant. Est-ce que finalement aussi c'est pas la patte Jean-Louis Gasset qui est arrivé justement en novembre 2017 à Saint-Etienne quand ça n'allait pas?
Je saurais pas dire si c'est lui qui est responsable du bon mercato. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent entraîneur, un excellent tacticien.
Le jeu, c'est lui, ça c'est sûr.
Voilà, au niveau du jeu, c'est lui qui était derrière le beau jeu du PSG à époque Laurent Blanc, quand vraiment cette équipe maîtrisait son football parfaitement, possession, grosse attaque qui faisait peur à toute l'Europe. Ils ont bénéficié de quelques coups du sort en Ligue des Champions qui leur a pas permis d'aller plus loin à chaque fois. Mais au niveau du jeu, le PSG de Laurent Blanc et de Jean-Louis Gasset, c'était quelque chose. Donc effectivement, au niveau du jeu, Saint-Etienne bénéficie de ce coach-là. À mon avis, par contre, au niveau du recrutement, j'en sais rien. Ça se trouve, oui, il a un réseau et peut-être, il a une aura auprès des joueurs qui fait qu'il il a pu en attirer quelques-uns. Mais à mon avis, c'est surtout du flair. Aller chercher Debuchy qui n'avait pas joué depuis 2-3 ans. Aller chercher M. Villa qu'on avait oublié en Russie.
Casri qu'on avait oublié en Angleterre, à Sunderland.
Casri, il avait fait une saison énorme.
Grosse Coupe du Monde aussi.
Mais d'aller chercher même Subotic, qui aurait tenté Subotic? On savait même pas qu'il était possible de l'avoir.
Même Kabea, on était sûr de ses qualités, mais c'est un joueur qui était plutôt inconstant.
Depuis le titre de Montpellier en 2012, c'est vrai que Kabea a eu du mal à confirmer ce titre.
Il n'a pas bénéficié de beaucoup de soutien à Marseille aussi.
C'est dur,
parce que franchement, pour moi, il avait largement sa place dans l'effectif marseillais. Mais tant mieux pour lui, il a un gros rôle à Saint-Etienne. Et voilà, aujourd'hui, il est quatrième, il s'en porte pas plus mal.
Justement, Lucas Cerdic, vous parlez d'effectif marseillais à l'époque, mais l'effectif Saint-Etienne, est-ce que cet effectif est suffisant? Est-ce que l'AS Saint-Etienne, c'est possible, c'est capable de durer toute la saison en Ligue 1?
Ça peut ressembler un peu à ce qu'on a vu avec Marseille l'an dernier, c'est-à-dire que là, il me semble, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi, mais Casri a été blessé, il me semble, après son doublé.
C'est une info que j'ai loupée, mais ce qui est sûr, c'est que s'il est blessé, il va faire...
Il va manquer. Donc, si on perd des joueurs comme ça petit à petit,
Faut voir. Non, mais c'est vrai, le Saint-Etienne bénéficie de l'élan de la deuxième partie de saison l'année dernière, ils étaient suffisamment loin pour ne pas avoir de Coupe d'Europe cette année, donc ils vont pouvoir effectivement faire tourner, s'appuyer sur
jouer sans crainte,
un 11 qui va pas trop jouer par rapport à d'autres équipes concurrentes.
Et on a eu un débat la semaine dernière avec notre invité Nolan Bediaf sur les titres, les coupes. On parlait de l'Olympique de Marseille qui, pour un club comme l'OM, ne faisait aucun parcours en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, malgré le parcours en Ligue Europa. Là, Paris Saint-Etienne, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Le dernier titre, c'est en 2013, c'est aussi une Coupe de la Ligue. Ouais. Est-ce que justement, pour les Verts, si on ne peut pas accrocher la Ligue des Champions, si même la Ligue Europa peut être difficile, on ne sait jamais, est-ce qu'une Coupe de la Ligue, une Coupe de France pour les Verts, c'est suffisant?
Complètement.
C'est magnifique. Puis surtout, je pense, comme on a dit la semaine dernière, pour des clubs de l'envergure de Marseille, de Saint-Etienne, ils sont quand même des mammouths du foot français. une Coupe de France, c'est beau, quoi. Sur le palmarès, ça brille. Et c'est, oui, voilà, c'est une Coupe mythique.
Saint-Etienne, ils partent, ils ont en plus une période vierge de trophées beaucoup plus longue que Marseille. Oui. Autant la semaine dernière, j'étais pas d'accord sur le fait de dire que Marseille, ça leur suffirait cette année. Autant pour Saint-Etienne, c'est clair, net, précis, évidemment que ça leur suffirait cette année. Ça voudrait dire Europe, ça voudrait dire un nouveau trophée, ça voudrait dire
ferveur,
ça voudrait dire une épopée, ça voudrait dire forcément quelque part qu'ils ont éliminé le PSG ou alors qu'ils ont bénéficié de l'élimination du PSG par une autre équipe. Mais de toute façon, ça voudrait dire ils n'ont pas d'Europe à jouer cette saison, contrairement à l'OM qui préférerait un bon parcours en Coupe d'Europe qu'en Coupe de France. Encore une fois, c'est mon avis, mais
je suis
persuadé qu'ils préféreraient aller loin en Europe plutôt en Europe qu'en Coupe de France. Saint-Etienne, eux, évidemment, fait partie de ces clubs là justement. Ça leur
irait très bien. Bordeaux comme Toulouse, des clubs comme ça.
Ça ferait une espèce de saison de transition parce que j'ai envie de dire, même s'ils font un podium aujourd'hui, ça sera presque trop gros pour eux, quoi.
Marek Keita, que peut espérer, parce que vous avez dit non à la question, est-ce que l'AS Saint-Etienne peut jouer la Ligue des Champions, que peut espérer Saint-Etienne cette saison, au minimum la Ligue Europa?
Ouais, encore une fois, moi je les vois bien à arracher la Ligue Europa, en tout cas accrocher ce haut du tableau, ce top 5.
Ils sont actuellement 4e, donc
via le championnat ou via la coupe d'ailleurs, hein. Voilà, effectivement c'est une équipe qu'on verra bien en Europe l'année prochaine.
Ils l'ont déjà été, il me semble, en plus en Europe. Il n'y a pas si longtemps.
Bah, Galtier, justement, qui vont retrouver le week-end prochain samedi.
Ils ont fait quelques top 5 ces dernières saisons. Hein,
Donc, la Ligue Europa, c'est le minimum cette année pour Saint-Etienne, ou c'est trop tôt?
C'est pas le minimum, c'est l'objectif raisonnable.
L'objectif raisonnable est plus haut si jamais. Voilà.
Ouais, on sait jamais.
C'est en visant plus haut qu'on peut retomber plus bas. Donc.
Oui, voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est que s'ils font podium et qu'ils vont Ligue des Champions l'année prochaine, attention,
faut assumer derrière.
Parce qu'ils ont fait un bon recrutement, certes, mais ils n'ont pas non plus fait un recrutement sur la durée. Quoi.
Ils n'ont pas fait un recrutement Ligue des Champions.
Voilà, Debuchy, Subotic, c'est fin de carrière. Villa, c'est un grand revenant, mais c'est pas non plus avec ce genre de joueur. Enfin, il faudra un effectif sacrément plus fourni pour pas exploser en vol s'ils vont en Ligue des Champions.
Saint-Etienne, on verra leur prochain match. Ce sera samedi à 17h chez nos confrères de Canal+, contre le Lille Olympique qui a battu, on le rappelle, l'Olympique de Marseille hier 3-0. Merci messieurs, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout de suite.
Un an de plus que je me caille, oh, oh, je meurs de froid, oh. Un an de plus et je me taille, ouais, et je rêve de te voir. Les nuits sans toi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Un an de plus et malgré moi, je reste loin de toi. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Plus le temps passe, plus je sens en moi ces choses-là qu'on ne se dit pas. Ouais. Plus j'avance et plus je sens en moi ce qu'est d'être loin de chez soi. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche. proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là.
C'était les frérots de la Vega sur Radio Présence.
Portez-vous bien. L'invité.
Et l'invité a rejoint les studios pendant que Lucas Cerdic continue de manger cette délicieuse petite cacahuète au chocolat. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, notre invité est un leader, un meneur d'hommes ou de caribou. L'ami intime de Céline Dion s'est reconverti dans le hockey sur glace, le sport national de son pays, Eddy Martin, et l'entraîneur des Belugas, le Toulouse Blagnac Hockey Club. Eddy, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être venu. Eddy, vous êtes le premier invité étranger de l'émission, finalement. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ?
Oui, là j'entends ma quatrième année à Toulouse en tant que joueur, ma deuxième année en tant que joueur-entraîneur. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en France pour le hockey sur glace. Je suis arrivé à 21 ans après mon stage junior au Canada. J'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat à Reims, à mes débuts à Reims. Et puis j'ai tenté l'expérience européenne. Et puis en sachant que mon avenir chez moi était pas grande, donc voilà, j'ai tenté l'expérience européenne avec aucun regret jusqu'à maintenant. Et voilà.
Et vous appréciez la France ?
J'adore la France.
C'est vrai.
J'adore. Ouais.
Et vous êtes comme ces Américains finalement qui viennent jouer au basket en France quand ils peuvent pas forcément faire parce que là-bas c'est le
sport national
du top quoi.
Voilà. C'est sûr qu'au Canada, si tu veux jouer au hockey dans la grande ligue, qui est la ligue nationale, il faut un grand gabarit, il faut être excellent. Et puis voilà, c'est une étape qui est dure à franchir pour certains. Et puis voilà.
Du coup, le profil du, je rebondis sur ce que vous dites, le profil du joueur européen, il est complètement différent qu'un nord-américain?
C'est sûr que dans la Ligue nationale, les joueurs européens qui réussissent à franchir cette ligue, ils ont quand même des beaux gros gabarits. Mmh. Mais c'est vrai qu'en Europe, ouais, les petits gabarits sont une grande parce que la glace, elle est plus grande. La surface, elle est plus grande en Europe. Donc, les joueurs plus rapides, plus petits, c'est vrai qu'ils ont plus de place à jouer.
Ah ouais, Pardon, et pour les compétitions internationales, c'est quelle surface ? C'est la surface européenne ? C'est la surface américaine ?
Normalement, c'est les grandes surfaces européennes, la IIHF.
C'est plus facile finalement, pardon, pour un Canadien, un Américain, de venir sur grand terrain, non ?
Ça demande une période d'ajustement, en fait, parce que ton temps de réflexion avec le palais est beaucoup plus long, tandis que chez nous, avec une glace, une surface plus petite, c'est plus rapide. On dit, par exemple, t'as moins d'une seconde pour faire un jeu, tandis qu'ici, tu peux bénéficier d'une seconde et demie, deux secondes. Donc, ton temps de réaction est beaucoup moins lent. Donc, ça se permet de faire des meilleures passes et tout. Mais ça prend quand même un bon petit mois. Là, les petits jeunes qui arrivent ou les nouveaux joueurs qui arrivent de chez nous, ça prend une période d'ajustement.
Lucas Cerdic.
Ouais, mais historiquement, justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est les Européens qui ont fait plus grand ou est-ce que c'est vous qui avez fait plus petit, justement, pour essayer de rendre le jeu un peu plus difficile et avoir une longueur d'avance ?
J'ai seulement 30 ans. Le hockey sur glace, ça fait quand même pratiquement 150 ans.
Ouais,
c'est
là. Parler à une
c'est une très bonne question, mais je peux pas répondre. Je sais que chez nous, ça a toujours été plus petit, en Europe plus grand, mais je sais pas de jusqu'à où que ça remonte.
Justement, le niveau en France, vous le jugez comment les Belugas sont en division 2, ouais. Et même la division 1, vous la jugez comment en France?
J'ai joué longtemps en division 1, j'ai joué 6 ans,
oui. Oui.
Et ça améliore d'année en année. Le hockey français s'améliore d'année en année, que ce soit D1, D2 ou même la Magnus. C'est un sport que je trouve qui prend beaucoup de vitesse et de grade dans les dernières
années. Au niveau de la sélection aussi ?
Au niveau de la sélection, oui. Forcément, oui. En Magnus, on remarque qu'il y a 10 ans, on recrutait des bons joueurs. Maintenant, il y a quelques joueurs qui ont fait des matchs en NHL. Oui. Le recrutement n'est pas pareil non plus.
Ah, mais au niveau de la sélection aussi nationale, je veux dire, au niveau de
la sélection nationale, l'équipe internationale, les Bleus, la France, sont très bons. Ils compétitionnent, oui, contre le Canada, la, oui, Russie, la, oui, Finlande. sont dans le top 12 mondial. Il y a des très beaux joueurs.
Ils sont dans l'élite du hockey.
Ils sont dans l'élite du hockey international. Et il y a des très beaux joueurs. Il y a, comme il y a Pierre-Emmanuel Belmar qui joue à Vegas. Il y a, il y a Roussel, comme vous avez mentionné. Il y a des très bons Français qui évoluent dans des grosses ligues en Europe.
C'est,
en
comme, c'est comme nos Français qui jouent en NBA et qui font que l'équipe de France de basket aussi.
Exactement.
A été meilleur,
justement, est-ce que on vient d'en parler, hein, Tony Parker, Batum vont jouer aux États-Unis, reviennent au titre de champion d'Europe avec l'équipe de France, gros parcours en Coupe du Monde. Est-ce que c'est ça qui va faire du bien à l'équipe de France, justement? Qu'est-ce qu'il manque à l'équipe de France pour faire un très gros résultat? Peut-être pas combattre contre la Russie et le Canada, on va peut-être pas aller jusque-là, mais pour vraiment aller au moins les inquiéter sur une mi-temps, quoi.
Mais, tu sais, le hockey sur glace en France représente 20 000 licenciés. Dans un pays qui est quand même très grand, il y a une grosse population, et bah, au Canada, je veux dire, tout le monde joue au hockey depuis qu'il est tout petit. Donc je pense que c'est un sport que dès jeune âge, il faut faire des choses pour que le sport explose un peu. Mais à 20 000 licenciés, je pense que voilà, on est très chanceux. Je pense que la France est très chanceuse d'avoir des joueurs qui jouent en Ligue nationale par rapport au ratio là. Mais l'équipe internationale, je pense, va dans le bon chemin. Ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps, en Boson maintenant, qui est un icône français. Donc, je pense que c'est sur le bon chemin. Et puis,
Justement, le hockey en France, il est secondaire. 20 000 licenciés, c'est même pas 1%, c'est très très peu. Qu'est-ce qu'il manque pour que le hockey devienne plus important? Il manque finalement,
plus
est-ce que c'est
neige.
Les températures? Voilà, est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de neige au Canada? On se force à jouer au hockey sur glace?
On n'a pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas sortir, on va pas jouer au rugby avec des moufles.
ça serait un très beau sport, ça, je pense.
Non, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que c'est un sport qui est peu médiatisé. Il y a eu les championnat du monde il n'y a pas longtemps en France, je ne sais pas si vous le saviez, à Bercy, à Paris.
Partagé avec l'Allemagne.
Voilà, partagé avec l'Allemagne. Et forcément, comme tout sport qui est peu méconnu, peu médiatisé, il manque un peu de sous, quoi. Il manque un peu de fonds pour faire développer tout ça, surtout les petits clubs comme nous de D2 et des clubs de D1 aussi. Ça manque un peu de fonds pour faire évoluer le sport études et tout ça.
Les Jeux Olympiques aident beaucoup. Le hockey sur glace, c'est aux Jeux Olympiques. En France, ça aide beaucoup d'être aux Jeux Olympiques. On était avec Nolan Bediaf la semaine dernière. On parlait du roller des Jeux Olympiques, on voyait la difficulté de la fédération d'accéder aux Jeux Olympiques. Une fois qu'on y est, la visibilité est beaucoup plus importante. On le ressent après les Jeux Olympiques?
Moi, je sais pas, j'ai jamais fait les Jeux Olympiques, mais je pense que oui, l'engouement doit être là. C'est forcément, c'est sûr que derrière moi, les Bleus au niveau du tournoi olympique, voilà, ils sont pas classés sur le podium. Mais venant un jour qui se mettent sur le podium, donner une grosse engouement. Ça va.
C'est un des seuls sports collectifs des JO d'hiver, donc effectivement, c'est quelque chose qui pourrait booster le sport en tout cas chez nous.
Oui, forcément.
Et est-ce qu'après les Jeux Olympiques, quand les Jeux Olympiques d'hiver se terminent, est-ce que par exemple au Beluga, on ressent un peu plus de licenciés? Juste, est-ce qu'il y a un effet Jeux Olympiques d'hiver, même si la France fait pas...
Comme il y a un effet Coupe du Monde.
Voilà, comme il y a un effet Coupe du Monde, comme le handball est content quand ils sont champions du monde, parce qu'il va y avoir plus de licenciés, pareil pour le tennis, pareil des tours.
Oui, je pense que quand le hockey sur glace bénéficie d'une vitrine comme les Jeux Olympiques, que ce soit en France ou un autre pays en Europe, je pense que les jeunes qui regardent la télé vont regarder ça, ils vont peut-être vouloir en faire. De là à dire que ça monte de 50% nos taux d'inscription, c'est faux. Mais oui, ça donne un petit engouement. Il y a forcément un ou deux jeunes par club qui viennent par curiosité.
Après, les JO, pour comparer pareil au basket, finalement, ce qui attire vraiment les jeunes, au final, ce serait plus la NHL ou la NBA. C'est ça qui fait rêver les jeunes, en fait.
C'est pas vraiment nord-américaine, en fait. Quoi.
Puisque c'est là où il y a les meilleurs joueurs. D'ailleurs, quelquefois, vous voyez, il y a des joueurs de NHL, ils ne vont pas aux JO, en fait, puisqu'ils sont bloqués par leur franchise. Donc, en fait, vraiment, ce qui peut vraiment faire exploser le hockey, ce serait vraiment une ouverture de la NHL, une ouverture de sortir du continent nord-américain.
La NHL, elle est quand même bien diffusée en France, notamment sur les chaînes du groupe Canal+. Moi, je pense que le problème, pour ma part, j'ai toujours essayé de m'intéresser au hockey sur glace. J'ai un gros souci, c'est que ça passe mal à la télé. Pour moi, ça passe mal à la télé. Et ça, franchement, ça empathie parce que on voit à peine le palais.
On voit pas le palais.
Culturellement.
On a le même problème avec des gens qui découvrent le hockey sur glace. Des fois, parfois à Toulouse, viennent voir un match et c'est très rapide, comme tu peux voir à la télé et en live. Excusez-moi, le titre anglophone.
Ça, on comprend.
Mais c'est vrai que les gens, ils disent comme toi, ils voient pas le palais, ils comprennent pas les règles et surtout, ça va très vite. Donc, le palais pour eux, il semble minuscule. Donc, c'est vrai que c'est un problème qui arrive souvent.
Justement, j'allais corroborer les propos d'Eddy. C'est vrai que moi, j'ai découvert le hockey par mon métier, en fait, du coup, par mon activité de pigiste. Et en fait, au début, pareil, même en voulant apprendre les règles, en voulant m'y intéresser, le seul accès que j'avais au hockey sur glace, c'était la télévision. Et finalement, c'était très, très dur, comme dit Lucas, de regarder ce sport, de m'y accrocher et tout ça. Et puis, en fait, quand j'y suis allé en vrai, ça a totalement changé ma vision de ce sport. Déjà, l'ambiance qu'il y a dans une patinoire, et puis en plus, la vitesse, les contacts, c'est un sport qui est très agréable. Et après, au-delà de ça, quand on a passé, on va dire, le choc un peu que représente le hockey, finalement, il y a un aspect tactique qui est vraiment incroyable. C'est super intéressant à suivre.
J'ai compris il n'y a pas longtemps, par exemple, qu'il y avait des espèces de lignes à franchir, tout le temps le palais qui doit franchir en premier et tout. Mais en vrai, ça va à une telle vitesse qu'on ne s'en rend jamais compte. Une fois qu'on l'a compris, c'est très impressionnant, mais au départ, c'est difficile de piger ça, quoi.
Ouais, c'est difficile. Et c'est le sport collectif le plus rapide au monde, mis à part la Formule 1. Tout ça, mais c'est un sport qui est très rapide, et même parfois les arbitres, tu penses peut-être en témoigner, Maxime, même eux, des fois, ils voient pas des choses.
Ah non, ils voient pas tout.
C'est très rapide, effectivement.
On parlait de l'engouement tout à l'heure que peut avoir les Jeux Olympiques, que peut avoir la Coupe du Monde. Nous cette année, on a eu un engouement. La France a été championne du monde de football. Les gens sont descendus dans les rues. Le pays s'est arrêté le 15 juillet pour voir ça. Quel est l'impact du hockey sur glace au Canada? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est ce sport qui fait sortir les gens dans la rue après les Jeux Olympiques, après les Coupes du Monde?
Ah oui, carrément. Je prends par exemple, moi je viens de Montréal, c'est les Canadiens de Montréal. Ouais. Et par rapport, s'ils gagnent la Stanley Cup, c'est pas la Coupe du Monde, mais c'est presque. Ça va être pareil, quoi. Les gens vont repasser sur les Champs-Élysées, mais ils vont aller sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ça va être la dernière fois qu'ils ont gagné, je crois qu'ils étaient pas loin d'un million. Donc c'est notre sport national.
À moins 48, c'est pas mal.
D'ailleurs, je voulais demander à Eddy, justement, j'avais vu un documentaire sur ça. C'était les Canadiens de Montréal qui avaient gagné une Coupe Stanley. Je crois qu'il y avait eu des émeutes, si je ne dis pas de bêtises.
C'est comme quand les Bleus ont gagné. Là.
Ouais, voilà,
c'est le même engouement, c'est pareil.
Ils appellent pas ça des émeutes, mais c'est les mêmes que les bastons quand il y a un match de hockey. On a le droit de se
Il paraît qu'on a le droit de se taper dessus. C'est le seul sport collectif où on a le droit
de se taper dessus.
Et celui qui cogne gagne. C'est lui qui
gagne. Quand NHL.
C'est ça.
Quand NHL.
Non, mais c'est vrai, ça, c'est pas une bêtise. Moi, je suis habitué à ça parce que chez nous, même junior, on avait le droit à se battre ou à la castagne, ça fait partie du jeu.
C'est incroyable.
Les gens qui ne comprennent pas le hockey, ça fait partie du jeu, il y a une stratégie derrière ça. Et
ceux qui vont à la castagne, comme on disait, c'est justement ceux dont on sait que...
Oui, souvent c'est ça. Ça c'est pour le public, mais il y a aussi des bons joueurs des fois qui vont régler leur compte, comme on dit. Et puis ça met de l'énergie et puis ça fait partie du jeu. Tandis qu'en Europe, mais on n'a pas le droit. C'est pas réglementé. Et
on
puis
est des petits joueurs,
c'est suspension, etc. Donc, mais ce qui est bien aussi, c'est on voit un autre côté de jeu qui est sympathique.
Justement, on parle de jeu à l'instant. Quelle est la différence entre la NHL donc au Canada et le championnat en France? Il y a une grosse différence. On parlait des terrains. La dimension des terrains, la rapidité, ça joue énormément.
Forcément, c'est la rapidité. Je pense que pour faire un clin d'œil au foot, c'est quand on a la Ligue des Champions et on regarde, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1 ici, je veux dire, il y a une différence de vitesse, il y a une différence de technique, c'est la même chose. Je pense que les joueurs de Ligue nationale, ils sont rapides, ils font ça 12 mois par année. C'est l'élite mondiale du hockey sur glace. Donc quand tu regardes un match de Ligue nationale, c'est incroyable.
Il n'y a pas plus haut.
Il n'y a pas plus haut.
On va parler des Belouga. Le club où vous jouez et vous vous entraînez, c'est ça le paradoxe finalement.
Le TBHC, Benoît Portanel, le directeur sportif, il m'a demandé après ma deuxième année si je voudrais prendre le poste d'entraîneur et jouer en même temps. Ça a été une surprise pour moi, mais je pense que c'est un défi que j'ai voulu accepter parce que j'adore le TBHC et les joueurs que j'ai eu la chance de jouer avec eux pendant 2 ans. Et puis, je sentais qu'il fallait un nouveau et je sentais que j'étais apprécié dans le vestiaire et que voilà. Et puis, c'est un défi que j'ai accepté volontiers.
Comment ça a...
Vous aviez déjà entraîné avant
J'avais entraîné les jeunes du club, les autres clubs que j'ai fait. Je donnais souvent mon temps à des U15, à des U18, parce que j'aime ça et puis c'est la passion et tu veux la partager. Au TBHC, j'avais entraîné les U15 et les U18 à l'époque, il y a 2 ans. Et puis, le senior, par contre, c'était ma première expérience.
Vous étiez le plus âgé de l'effectif, le seul Canadien, le plus légitime. C'est quoi qui a fait que...
Bah, je crois qu'il faudrait demander à Benoît pour cette réponse.
Que vous aviez vu
Mon gardien de but était le gardien de but Philippe Cuvier, c'est lui le doyen de l'équipe. Moi, j'étais le deuxième. Mais c'est certes, quand tu prends ce poste-là, je pense que ça prend une expérience derrière tout ça. Ça prend de l'âge et ça prend surtout un bagage d'hockey que je pense qu'au TBHC, il y avait peut-être pas grand joueur qui avait ce bagage-là. Mmh. Et puis les épaules aussi pour le faire. Je pense que c'est pas tout le monde qui veut faire ça et qui peut faire ça. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça a bien fonctionné avec la demi-finale de l'an dernier. Donc, voilà.
Maxime Brossard.
Oui, moi, je pense que pour apporter un peu ma connaissance sur le TBHC, Eddy, je pense qu'il a été élu entraîneur. C'est aussi par rapport à son tempérament. C'est un joueur très combatif. C'est un joueur qui montre toujours l'exemple. Moi, tous les matchs que j'ai fait, je pense que ça a été le joueur le plus constant que j'ai vu. Même dans beaucoup de disciplines, j'ai rarement vu un joueur qui était toujours au même niveau, c'est-à-dire toujours égal à lui-même. Quand il faut enlever les gants, bon, même s'il y a des pénalités, il n'hésite pas à les tomber. Je veux dire, c'est vraiment un leader. Je pense que même moi qui ne suis pas joueur de hockey, qui était des fois au bord de la glace, limite j'ai envie de mettre mes patins et d'y aller aussi derrière avec eux quand on a un joueur comme Eddy, quoi. Je pense que c'est surtout pour ça, c'est vraiment un leader naturel.
Comment ça a été reçu par vos coéquipiers, joueurs, finalement, aujourd'hui, quand on vous a dit, je joue, mais j'entraîne?
Ouais, ça a été une des plus grandes craintes, si je peux dire, de prendre le chapeau d'entraîneur par rapport aux joueurs. Mais ça a aussi été une décision qui a été facile parce que j'étais joueur avec eux, comme j'ai dit, pendant 2 ans, et puis j'étais très bien accueilli dans le groupe. Et puis, je pense que les joueurs avaient soif d'un changement, ils avaient soif d'une nouvelle ère, et puis ils ont soif d'apprendre. Et c'est ce qui a facilité mon fusil d'épaule, si je peux dire. Et puis, avec le groupe qu'on a surtout, moi qui a fait beaucoup de clubs en France, c'est pas parce que je suis au TBHC, mais c'est une réalité. On a vraiment un esprit d'équipe. Maxime peut peut-être en témoigner. C'est de toute beauté et puis c'est fort agréable.
Lucas Serdic.
Est-ce que vous avez désigné un capitaine aussi qui a une sorte de relais ou est-ce que vous êtes aussi le capitaine?
Non, je pouvais pas tout faire quand même.
Ah ouais, c'est ça.
ça aurait pu être bien quand même.
Voilà. Mais joueur, entraîneur, capitaine,
Intendant, il fait tout.
Non, je me suis enlevé le titre de capitaine. J'ai essayé de trouver un.
Vous étiez capitaine avant d'être entraîneur?
Ouais, j'étais capitaine de l'équipe. Et puis, j'ai essayé de trouver un autre joueur qui pouvait porter ce chapeau-là. Et cette pression-là, si je peux dire, entre guillemets, parce que c'est quand même une image du club et l'identité de ton club, le capitaine. Et puis, on a trouvé en Fleury-Bermond l'an dernier, je pense qu'on a trouvé un bon jeune capitaine. Et puis, je suis fier de de ce capitaine.
D'accord. Et du coup, là, cette année, qu'est-ce qu'on vise? On vise la remontée? On a les moyens ou pas?
On a les moyens de gagner. Est-ce qu'on a les moyens de jouer en D1? On verra après la montée. C'est toujours pareil. Si on veut monter en D1 et se maintenir en D1, je pense que si on gagne la D2, il va falloir que la mairie, les sponsors et tout vient avec. Je pense que c'est comme le foot. Hein, quand on est en division 2, on monte en division 1, tout faut vient avec.
On y était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça
on y était il n'y a pas si longtemps. On a fait le choix de jouer avec des jeunes joueurs du club, chose que pas beaucoup de clubs y font. Nous, on a décidé de jouer avec nos Français, on avait seulement 5 étrangers. On sait que la tendance en D1, c'est 10 étrangers. Nous, on en avait 5. Et puis, c'était place aux jeunes, prendre de l'expérience, ce qui est bénéfique aujourd'hui. Si on gagne cette année, je pense qu'on est prêt pour aller jouer en D1. Je pense que le public est prêt pour qu'on retourne en D1 aussi. Le club doit retourner en D1 et on va tout faire pour y arriver.
Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui au Beluga pour justement aller en Ligue, en D1, en Division 1?
Ah, on sera pas de cachette, je pense que il faut des subventions, il faut des partenaires, il faut des gens qui veulent embarquer dans cette aventure-là, parce qu'on a tout en termes d'infrastructure. La patinoire, je pense que si on serait en D1, on serait dans le top 3, top 4, rien enlever aux autres clubs, mais on a tout. Il faut juste avoir le budget du PSG.
on va en NHL direct.
Hein. Ah ben là,
on traverse l'Atlantique tous les week-ends. Et...
Ah ben là, t'es malade. C'est
parfait. Juste pour en revenir 2-3 secondes sur le entraîneur-joueur, quelle est la difficulté pour vous de se dire je me fais rentrer en jeu, je me mets titulaire. Il est où le juste milieu entre... Et puis surtout avec vos coéquipiers. Je suis ton coéquipier, non, là je suis ton entraîneur. Il est où le juste milieu entre les deux?
Ça a été difficile pour moi. Ça a été une demi-saison pour moi l'an dernier d'ajustement. Je pense qu'on l'a vu avec mes statistiques personnelles. Parce que tu as beaucoup à gérer. Et il y a aussi ton ego. Comme tu dis, des fois tu dois te mettre dans des situations, des fois tu dois te retirer et tout ça. Ouais. Ça a été très dur de...
Ça apprend l'humilité, finalement, d'être entraîneur-joueur.
Ça prend beaucoup d'humilité, oui. Mais tu dois être irréprochable aussi. C'est ce qui est le plus dur, en fait. Ouais. Je me suis jamais mis autant de pression de bien faire aujourd'hui que je l'ai fait avant. Parce que je pense qu'en tant que leader ou en tant que coach, quand tu dois jouer en même temps, tu dois vraiment montrer l'exemple et être irréprochable. Et c'est ce que j'essaie de faire soir après soir. Et puis, je pense que là, j'ai pris l'habitude. Et puis, j'ai un bon groupe aussi qui comprennent que je suis joueur-entraîneur et que ça passe bien.
Trouver le bon moment aussi pour justement se dire là c'est bon, c'est pas à moi de faire la différence, peut-être que c'est le moment de se retirer de la glace. C'est ça aussi qui doit être vraiment difficile à trouver, non?
Ouais, ce qui m'aide aussi, c'est que je commence à prendre de l'âge un peu. Oui. Donc j'ai plus 22 ans, 23 ans, quoi. 25 ans, donc
ça se voit pas.
Ouais, je pense que rendu à 30 ans, j'ai beaucoup d'expérience et je sais quand il faut je me repose, et je sais que quand c'est laisser place à autres joueurs qui ont des très bons matchs et qu'ils peuvent nous aider à gagner. Et il n'y a pas que moi, hein. Je veux dire, je suis joueur entraîneur, mais je pense qu'on est un groupe de 22 et je ne suis pas la raison du succès du TBHC, c'est vraiment le groupe.
Il y a eu des clashs quand même ou pas depuis que...
Non, justement, il n'y a pas eu de clash. Comme je répète, on a un groupe formidable, on a des jeunes qui ont soif d'apprendre et puis il rend mon job beaucoup plus facile.
Qu'est-ce qui... On retourne sur... Vous êtes au Canada, vous êtes en France depuis 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous manque du Canada et qu'est-ce qui vous plaît en France, juste pour terminer?
Est-ce qui me manque, en fait, surtout vu que c'est ma passion, le hockey sur glace, c'est de voir du hockey tous les jours à la télé à des heures convenables. Pas à des heures impossibles. voilà, mais la neige me manque pas, le froid me manque pas. Ne serait-ce que la famille et les amis. Sinon la France, le vin fromage, je suis un grand fan de France. Et non, mais j'adore aussi le fait qu'en France vous prenez le temps de vivre. Voilà, et aux États-Unis au Canada, c'est un rythme
speed.
Très speed. Ah oui. Et ici, vous prenez le temps de passer du temps en famille.
C'est le rythme des grandes villes, c'est comme ça aussi.
Oui, j'ai habité à Paris pendant 2 ans, c'est vrai que c'est un peu comme ça, mais je pense que j'ai joué aussi à Montpellier, là je suis à Toulouse, et le sud me plaît énormément. Pareil, ouais. Quoi. Vous prenez le temps de vivre, et c'est une qualité, je trouve que c'est énorme.
Puis il neige pas l'hiver.
ça, c'est énorme aussi.
Oui, non, mais oui, le temps de vivre, effectivement, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'il me semble qu'à Montréal, quand il fait froid, on voit pas beaucoup la lumière du jour, non?
Non, c'est un peu comme en Finlande, je peux dire. C'est les journées se rapetissent beaucoup. Parfois, il peut faire jour à partir de 8h30, 9h. Et il fait noir à partir de 16h30. S'il neige un peu et tout, voilà, tu vois pas la lumière du jour.
S'il fait froid, on va dans le réseau souterrain aussi, non, le piéton là. Hein?
Ouais, exactement. Montréal, c'est une ville souterraine, comme on l'appelle, avec ses métros. Mais ça se vit quand même très bien à l'extérieur pour avoir vécu et tout. On est bien adapté. À Paris, il tombe un centimètre. L'aéroport est ferme.
Bien sûr, pas l'habitude.
Ouais. Eddy Martin, merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
On se retrouve nous la semaine prochaine. Vraiment désolé pour l'agenda sportif. Vraiment désolé également pour le débat cyclisme. On le garde, promis, on le garde pour la semaine prochaine.
C'était bien OK là.
C'était super. On se retrouve, messieurs, la semaine prochaine. Merci à Coraline à la réalisation. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Oneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Nous, on se retrouve lundi. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Un euro, c'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24? Donnez 24 heures sur 24. Donnez.